Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel.
Salut.
D'ATH.
Bonjour.
Et de Ben.
Salut à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons d'un coup de gueule sur Fury, on enchaînera ensuite sur le multijoueur selon Westland 3, on causera également du solo de Titanfall. Du côté de Square Enix, il y aura deux actualités, la première sur l'annonce de la nouvelle extension de Final Fantasy XIV et la seconde sur Final Fantasy XV PC. Nous parlerons également de Star Citizen, Star Citizen qui a eu sa convention récemment, n'est-ce pas, la CitizenCon, où on a eu droit à une jolie démo technologique, mais où on a eu aussi droit à une annonce de report de la campagne solo. Et enfin, on terminera cette semaine d'actualité par les HoloLens, qui débarquent en France avec un prix, ma foi, qui est assez imposant. Sans oublier notre jeu du moment. On vous l'avait teasé, on vous l'avait promis, Pixel est là pour vous, il a testé pour vous, Homefront The Revolution.
Sur PC.
Ouais, sur PC, précisons-le, effectivement.
Il avait du courage, quand même.
Ah ouais, mais il s'est sacrifié pour vous, là.
Exactement.
Bon, allez, on commence donc par mon coup de gueule de la semaine, n'est-ce pas ? Mon coup de gueule de la semaine concerne Fury. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Fury, Fury est un jeu français. Fury est un jeu qui est basé sur un boss rush. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un jeu où tu vas enchaîner les boss, tout simplement. Ce n'est que ça. C'est un jeu où tu enchaînes les boss, où il y a même une communauté de speedrun tout autour, etc., qui est assez importante, apparemment. Et Fury, c'est donc un jeu qui mélange des mécaniques de, comment dire, de twin stick shooter, avec un bullet hell, c'est-à-dire qu'en gros, t'as des explosions partout à l'écran et tu dois éviter les tirs, tout ça. Bref, pourquoi je fais un coup de gueule cette semaine ? Parce que Fury va bientôt débarquer sur Xbox One. Alors, vous me direz-vous, mais tyrant, quel est le problème ? Eh bien, le problème, c'est que sur Xbox One, il va y avoir un contenu exclusif, et ce contenu exclusif, ce n'est ni plus ni moins qu'un nouveau boss. Ce qui est problématique dans un jeu qui est basé essentiellement sur les boss et qui fait à tout casser 5 ou 6 heures de durée. Bon, je dis 5 ou 6 heures, mais pour être honnête, moi, comme je suis pas doué, il m'a fallu 9 heures. Mais pour quelqu'un de normal, normalement, il faut à peu près 5 ou 6 heures pour le terminer. Donc, un boss additionnel, si vous voulez, c'est pas quelque chose de négligeable. Et ce contenu-là est exclusif à la Xbox One, ce que je trouve, ma foi, un peu dégueulasse vis-à-vis des possesseurs des autres plateformes. Alors certes, c'est vrai que le jeu arrive en retard sur Xbox One, mais nous, on a payé le jeu Day One, on l'a payé plein pot, en plus, sur PC. Non, parce qu'en plus, sur PlayStation 4, il est arrivé sur PlayStation Plus, donc voilà. Donc, ça fait un peu une grosse couleuvre à avaler, je trouve, et surtout dans un jeu, quand même, qui est pas bien long. Enfin, en tout cas, c'est le principal reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il est pas bien long. Certes, il a une bonne rejouabilité, mais bon, voilà, un boss, c'est pas négligeable. Et autant je suis pas forcément hostile sur le principe d'avoir des contenus exclusifs à la con, selon la plateforme, autant un contenu aussi important qui permet d'améliorer, disons, l'un des défauts principaux du jeu, je trouve ça pas très réglo. Voilà. Quelque chose à ajouter, messieurs ?
Non, c'est...
Bah, moi, je vois pas trop le problème, en fait, parce que, comme tu l'as dit, c'est un contenu supplémentaire qui est pour la version Xbox One, et vu qu'elle arrive un peu plus tard, bah, il faut bien quand même qu'ils vendent cette version. Après, c'est vrai que ceux qui ont acheté le jeu de base, ils se sentent lésés, mais bon, qui dit que le DLC sera pas offert d'ici peu de temps sous une forme d'extension gratuite ou peut-être même payante pour ceux qui l'ont acheté Day One déjà pour avoir ce boss supplémentaire.
Pour l'instant, on m'annonce contenu exclusif. Point. Alors après, s'il le sort dans l'avenir, très bien. Il n'empêche que c'est un jeu qui est extrêmement court, parce que 5 heures, je suis désolé, c'est pas non plus la folie en termes de durée de vie. Quand tu rajoutes un boss supplémentaire, ça te fait une demi-heure, une heure de gameplay en plus. C'est pas négligeable, quoi. Et je trouve ça pas très réglo vis-à-vis des gens qui l'ont acheté au début. Et moi, je pense que ce genre de choses, ça fait partie de ces choses qui n'incitent pas les gens à acheter les jeux Day One. C'est un peu comme les jeux, tu sais, qui se retrouvent en solde à moins 50% au bout de 6 mois. Enfin, t'as l'impression de plus en plus que quand t'achètes les jeux Day One, ben,
en fait,
c'est ça, quoi. Alors après, peut-être qu'ils le feront plus tard, je l'espère. Mais pour le moment, voilà, c'est moi ça me dérange quoi.
Ouais, mais après je veux dire, ce genre de pratique là, c'est déjà courant. FIFA par exemple, je sais qu'il a un mode exclusif avec le mode de FUT, c'est le mode où en fait en gros on achète des cartes à collectionner. Et pour la version Xbox One, pour la vendre justement, ils ont mis du contenu supplémentaire qu'il n'y a pas dans la version PS4 ou PC par exemple. Et là j'ai envie de dire, comme le jeu en fait il arrivait un peu plus tard sur Xbox One, peut-être que c'est ça qui a permis d'ajouter ce contenu-là, tu vois. Le jeu serait sorti en même temps que sur PS4 et sur PC. Ils n'auraient pas eu le temps de développer ce boss supplémentaire.
Si tu veux, à côté, il y a plein de développeurs qui font ce genre de choses et qui sortent le contenu gratuitement sur les autres plateformes, tu vois. Donc moi, c'est pour ça. Enfin, moi, je compare aussi avec ce qu'il y a sur le marché. Là, encore récemment, on en discute avec Ben, genre, t'as Warhammer Vermintide qui a sorti un DLC de 6Go gratos, tu vois. Et là, t'as un jeu qui est court et en plus on te dit bah le DLC il est exclusif, voilà quoi. Enfin,
c'est sûr que après d'acheter les jeux Day One, clairement aujourd'hui tu te fais baiser la gueule parce que en général tu vois que un an après ils te sortent, de toute façon à chaque fois ils te sortent l'édition GOTY, Game of the Year avec tous les DLC qui sont sortis. Donc toi si t'achètes le jeu de base plus les DLC avec le Season Pass ou bien si tu les achètes indépendamment ça dépend de toi, donc tu vas payer plein pot. Et en général, si tu achètes le jeu Day One, c'est vraiment parce que t'es impatient et que tu veux faire le jeu. Mais c'est sûr que tu sais très bien que le jeu, quoi qu'il arrive, en tout cas pour un triple A, s'il y a des DLC qui sont annoncés, etc., il y aura forcément tôt ou tard une version supplémentaire améliorée qui va arriver, quoi. Par exemple, Tomb Raider, là, sur PS4, le jeu était sorti sur PC et sur Xbox One l'année dernière. Là, il vient juste de sortir sur PS4. Et sur PS4, déjà, il y a un contenu supplémentaire pour le mode PSVR. Plus tous les DLC qui étaient sortis sur la version Xbox One et PC, sauf que les gens qui l'avaient acheté sur PC et Xbox One, ils ont dû le payer plus cher. Enfin, ils ont dû les payer séparément. Alors que là, sur la version PS4, en fait, c'est la version Game of the Year avec les deux extensions qui sont sorties.
Bon, messieurs, on passe à la suite. Ben,
oui.
Tu vas nous parler du multijoueur dans Wasteland 3.
Ouais. Donc une des grosses nouveautés du futur Wasteland 3, ça va être son mode multi, où en fait on va pouvoir démarrer carrément une campagne multi, et tout le jeu va être basé là-dessus. Donc c'est-à-dire que bah, on pourra, en fait ça sera la même campagne, mais il y aura entre guillemets deux teams, c'est-à-dire que chacun aura sa propre team de rangers. Pour ceux qui connaissent pas Wasteland, en fait c'est ça, en gros on gère des rangers, on a une base, et on peut recruter du monde, changer ses équipiers, etc. Et donc là, en fait, le jeu sera basé sur une expérience multi où chacun aura sa team. On pourra faire le jeu ensemble ou séparément, c'est-à-dire que chacun pourra partir faire des missions séparées, sauf à certains moments forcément où, on va dire, pour la mission principale, il faudra qu'ils se retrouvent pour faire avancer l'histoire. Par contre, tout le reste, ils pourront le faire ensemble ou séparément. Et au niveau de la base à gérer, donc voilà, il y a une base à gérer avec le recrutement des personnes, etc. Là, par contre, il y aura une base commune. Donc c'est vraiment en fait une expérience solo mais en multi, c'est-à-dire que c'est le même jeu, il y aura les mêmes missions, les mêmes choses, sauf qu'on pourra vraiment le faire à deux.
Alors après, et en plus, si genre par exemple ton pote passe dans une zone et qu'il la ratisse, toi si tu passes derrière, tu verras, on va dire, les résultats du carnage.
Exactement, et puis pareil pour le recrutement des personnages, c'est si ton collègue recrute un des personnages, et ben toi tu pourras pas le recruter. Alors après, vu qu'on est dans le même camp, on est du même côté, on pourra se les échanger, mais le même personnage pourra pas être recruté deux fois.
Donc ça, moi je trouve que c'est pas mal déjà pour les gens qui veulent jouer en multi, qui peuvent pas forcément se réunir tout le temps.
Exactement, ouais.
Nous deux par exemple, bon, ça nous intéresse parce que on aime jouer en multi, mais on a souvent du mal à se réunir.
Ouais.
Et du coup, ça peut être pas mal d'avancer chacun de son côté, tu vois.
Exactement, c'est-à-dire que pour les missions secondaires, on peut jouer chacun. Si un soir, on a une heure, il y en a un qui va jouer, etc. Puis après, par contre, quand on veut faire avancer l'histoire, là, faut se réunir. C'est vraiment sympa. Alors par contre, je sais pas comment la difficulté va être gérée pour l'instant. C'est-à-dire que bah, vu que tu démarres le jeu à deux, généralement, t'as plus d'ennemis, plus de choses comme ça. Donc est-ce que si chacun part de son côté, ça va pas être plus dur, ça je sais pas. Je pense qu'il va y avoir un équilibrage pas forcément facile à faire, parce que c'est sûr, si tu fais la mission à multi ou tu la fais tout seul, forcément c'est pas pareil. Donc
ouais, parce que là, tu sais, bon, pour prendre un jeu qui n'a rien à voir, hein, mais récemment, tu te tâtais, n'est-ce pas, pour prendre Shadow Warrior 2, que j'ai sur PC. Le multijoueur de Shadow Warrior 2 a un souci. Dès que tu mets ta partie en multijoueur, en fait, les PV des monstres augmentent énormément, quoi, si ils sont beaucoup plus durs à tuer, ouais. En fait. Et autant ça va quand tu es à deux, mais le problème, c'est que si du coup tu veux reprendre un solo derrière, les monstres gardent les points de vie qu'ils avaient quand t'étais à deux. Et donc, du coup, ça rend le jeu apparemment extrêmement pénible et finalement, t'es quasi obligé de faire tout le reste du jeu à deux, en tout cas sur ta partie, si tu veux faire du coop. Ouais. Donc tu peux pas à un moment donné dire je vais faire un truc de mon côté quoi. Ou alors si à moins que t'as envie de te faire chier quoi, voilà quoi.
C'est un truc que je trouve quand même assez con parce que c'est un truc qui est quand même assez simple à faire quoi. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent ce système-là.
Peut-être qu'ils vont le corriger parce que je sais par exemple Borderlands, c'est quand il est sorti, je sais plus lequel c'était, il y avait un peu ce genre de problème et après ça a été plutôt bien corrigé où en fait c'était pas les PV des monstres qui augmentaient mais il y avait plus d'ennemis et dès que tu repassais solo en fait il y en avait moins qui arrivaient etc. Donc ils avaient géré ça de cette façon-là.
Mais par contre, ce qui me dérange un peu dans Wasteland 3, c'est que, par exemple, on va dire, Tyran et toi, vous achetez le jeu et vous commencez la campagne. Bah, c'est-à-dire que, en fait, tu pourras jouer que avec Tyran et tu pourras pas jouer avec un autre joueur quand Tyran sera pas là, quoi. Tu pourras retourner vers une campagne solo, mais tu pourras plus continuer en coop. Et ça, c'est un peu embêtant, quoi.
Ouais, bien sûr. Hein.
Mais à part ça, c'est vrai que ce qui a été dit, le système comme quoi tu peux recruter un personnage, mais qui ne soit pas duplicable, quoi. Je trouve que ça rajoute de la crédibilité, en fait.
Ouais, bien sûr, totalement, ouais.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça mêle vraiment expérience solo et multi, en fait. Tu gardes le côté immersif que peut avoir un jeu solo,
c'est ça,
en
ouais.
fait. Mais d'un autre côté, t'as quand même une dimension multijoueur qui est intéressante. Mm. Par exemple, Ben et moi, on parlait l'autre jour de Tyranny, tu vois. Et moi, ce qui me poserait un problème, par exemple, sur un multijoueur, sur Tyranny, qui est un jeu qui est apparemment énormément basé sur les textes, etc., c'est que moi, Tyranny, c'est pas un jeu, en fait, auquel je pourrais jouer, par exemple, tu vois, sur Skype, avec un pote qui me dirait on fait ça, on fait ça, on fait ça, parce ouais. que comme c'est basé sur le texte, l'ambiance, etc., ça me sortirait du jeu, en fait.
C'est vrai.
Et j'aurais quand même besoin, sur un jeu comme ça, tu vois, d'avoir des moments, en fait, où je suis pas avec mon pote, où je profite juste de l'histoire, quoi.
Hmm. Bon, après, dans Divinity, c'était un peu ça aussi, du coup. Pour le premier.
Bah, un Divinity, après, le scénario, honnêtement...
Oui, c'est vrai, il est peut-être moins poussé que celui de Tyranny.
Divinity, le cœur de l'expérience multi, c'est vraiment les interactions, en fait.
Ouais.
Et c'est pareil pour Divinity 2, c'est-à-dire que c'est pas tellement pour l'histoire que tu vas y jouer, c'est pour les saloperies que tu vas pouvoir faire à tes potes.
C'est vrai.
Donc, c'est encore différent, si tu veux, comme expérience. C'est pas une expérience narrative, quoi, entre guillemets.
Oui.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe à Titanfall 2.
Mm-hmm.
Bon, ça va être court, hein. Titanfall 2 a récemment posté une vidéo de sa campagne solo. Bon, sachant qu'il y en a eu d'autres, hein, des vidéos de la campagne solo. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cette vidéo, en fait, c'est que visiblement, cette campagne solo, ce sera pas juste du bourrinage. Il y aura aussi des puzzles, etc. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, ça a l'air quand même vachement varié. Enfin, en tout cas, l'intention derrière... c'est de faire un jeu qui propose vraiment des phases différentes, où en plus apparemment t'as un level design travaillé, où t'auras plusieurs chemins, etc. Et moi je sais pas pour vous, mais plus j'en vois sur cette campagne solo de Titanfall 2, plus je trouve ça alléchant, quoi.
Bah en fait ils vont peut-être arriver à faire dans le 2 ce qui était prévu dans le 1, quoi.
Ouais.
Voilà, pourquoi le 1 n'a pas marché, et du coup ils ont peut-être appris de leurs erreurs, et c'est quand même une bonne chose, ça il faut le souligner, hein.
Bah surtout ils ont l'air d'avoir mis une vraie équipe pour le solo derrière, quoi. C'est ça. Moi j'avais un peu peur, si tu veux, que ça fasse un peu le solo checklist, quoi, si tu veux.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que en gros, ok, il faut un solo, on en met un, voilà.
Ouais.
Bon c'est un peu de la merde, hein, mais on en met un quand même. Et là j'ai l'impression quand même qu'il y a l'air d'avoir une réflexion derrière, qu'on essaie de varier les phases de gameplay. Enfin moi je trouve ça très intéressant, quoi.
Bah moi en fait j'aime beaucoup ce que j'ai pu en voir dans la vidéo, et après ce qui me fait un peu peur vis-à-vis du solo, je dis pas que la campagne va être nulle, mais je pense niveau scénario, quoi, je m'attends pas à un truc de ouf non plus.
Ouais, mais si tu veux, honnêtement, dans un FPS, du moment que le gameplay est excellent, un scénario naze, je peux tout à fait m'en accommoder, d'autant plus que ce sont pas des jeux longs, quoi. On a beaucoup reproché au dernier Doom d'avoir un scénario extrêmement bateau, OSEF. Mm. Mais en fait, c'est vraiment pas le sujet du jeu, quoi. C'est vraiment un jeu à gameplay. Ils ont mis tout là-dedans. Et si Titanfall 2 fait ça, à la limite, ça me dérange pas, quoi. Vraiment pas.
Non, mais justement, dans Doom, c'était justifié que le scénario se naze. En fait, au tout début du jeu, il parodie en fait les campagnes solo qu'on a actuellement dans les FPS. C'est-à-dire au début, tu commences, ton personnage se réveille, etc. Et là, tu vois, il y a un scientifique qui vient, qui commence à te parler, il te dit « Bon, alors je t'explique pourquoi t'es là, nanani, qu'est-ce qui va se passer ?» Et là, tu vois ton personnage, en fait, il attrape le moniteur où il y avait le scientifique qui était apparu à l'écran, il l'arrache, il dit « Putain, mais j'ai pas besoin qu'on me raconte ce qui va se passer, tu vois, en gros... » Donc là, j'espère que, au moins, tu vois, si le scénario n'est pas trop développé, ils font un truc genre con, tu vois, la Gears of War. Tu vois, le scénario, c'est pas le truc le plus fin du monde, mais tu t'amuses parce que les mecs, justement, c'est des bad guys bien bourrins, et tu rigoles juste parce qu'ils racontent des conneries.
Ouais, parce que c'est vrai que là, le peu de trailer qu'on a vu, ils ont l'air quand même de se prendre très au sérieux.
Et c'est ça que j'ai peur, genre, ils essayent de faire un truc sérieux, tu vois, genre comme dans les Call of Duty ou bien les Battlefield. Les environnements, ils ont l'air quand même assez ouverts, assez grands. Je pense que il devrait vraiment mettre l'accent sur le gameplay de cette campagne solo et pas à être là en fait à te bourrer de cinématiques, à te raconter une histoire dont on a rien à foutre en fait.
Bon, on va maintenant parler de la prochaine extension de Final Fantasy XIV. Le meilleur Final Fantasy depuis pas mal de temps, déjà je le dis, je l'assume, n'est-ce pas? Attention, fanboy spotted. Donc, Final Fantasy XIV qui a annoncé sa prochaine extension. Alors, la prochaine extension, hein, on vous fait le topo. Hein, donc, il y aura minimum deux classes. En termes de contenu, ça sera normalement au moins équivalent à Heavensward, qui était déjà pas mal conséquent à ce niveau-là. Nouvelle zone résidentielle, bref. Du contenu, en veux-tu, en voilà. J'ai envie de dire, Square Enix, à ce niveau-là, depuis qu'ils ont, on va dire, corrigé les problèmes du lancement, ils assurent hein, en termes de contenu. Mais par contre, le truc qui est moins glope, c'est que, messieurs, mesdames, possesseurs de PlayStation 3, l'extension, vous l'aurez pas. Même si je peux comprendre le choix technique derrière.
Ouais,
c'est
voilà,
pas top,
ce que j'allais
quoi.
Dire. C'est vrai que si tu joues sur PS3, c'est chiant, mais au bout d'un moment, en fait, si tu veux faire des trucs cohérents en termes d'amélioration, de graphisme, etc., c'est dur de supporter toutes les plateformes. Hein. C'est dommage. Moi, le côté technique, j'arrive à le comprendre. Mais après, ça me ferait chier. C'est pareil. Si j'y jouerais sur PS3, ça m'aurait fait chier. Je le sais très bien.
Bon, par contre, Ben, je voulais te poser une question. Toi, t'avais commencé Final Fantasy XIV, il me semble. Tu t'étais arrêté où?
En fait, j'ai fait le reboot.
Juste la campagne de base. En fait.
Exactement. J'ai pas fait les extensions.
Alors justement, je voulais te poser la question. Toi qui as fait le reboot et qui a une idée, déjà, du temps que ça prend pour faire le scénario quoi principal. Parce que moi, je dis très clairement, Final Fantasy XIV, c'est un faux MMORPG. Hein. C'est un jeu solo avec des passages multijoueurs obligatoires.
Ouais. Voilà. Toi, t'avais fait l'extension, c'est ça?
Tout enchaîné d'une traite jusqu'à la fin de Heavensward.
D'accord.
Du coup, je vais te demander, est-ce que tu te sens d'attaque, toi, joueur lambda? Est-ce que tu te sens prêt à te taper coup sur coup?
Oh, l'insulte, là.
Non, mais je veux dire, c'est pas un no-life, quoi. Enfin, voilà. Oui. Est-ce que tu te sens prêt à te taper coup sur coup, Heavensward, plus le contenu d'une nouvelle extension. Parce que c'est ça, le truc, c'est que il faut être prêt, tu vois, à se taper une centaine d'heures de gameplay minimum, quoi.
C'est ça, ouais. Ben, malheureusement, non. En fait, c'est toujours pareil. J'avais joué à FF14 à un moment où j'avais pas trop de jeux, c'était une période un peu calme. Et sachant qu'en plus, c'est un jeu à abonnement, donc tu te dis, c'est pas un jeu, si je l'achète, je vais y jouer tout de suite, parce que je vais pas attendre 6 mois et payer un abonnement pour rien. Donc généralement quand tu le prends c'est pour y jouer assez rapidement, donc j'avais une période où il n'y avait pas trop de jeux qui m'intéressaient, j'avais regardé les futures sorties, je savais que voilà c'était plutôt calme, donc je m'étais dit ok je me fais 3 mois, je me prends 3 mois d'abonnement, je fais bien le jeu et tout. Mais là aujourd'hui voilà il y a tellement de jeux qui sortent, là on en a parlé tout à l'heure, d'ici la fin d'année ne serait-ce que voilà il y a FF15 aussi, il y a plein de jeux qui vont sortir, je me sens pas de me relancer là-dedans quoi. Et puis c'est pareil, moi ce qui m'avait motivé au départ... J'avais commencé le jeu avec un collègue, et c'est vrai que c'est toujours aussi plus motivant, parce que ça reste un MMO, il y a des mécanismes qu'il faut prendre en compte, etc. Il faut se renseigner un peu sur les boss, comment ils fonctionnent, parce que c'est un jeu qui est pas évident, en fait, je trouve, qui est très intéressant.
Qui est très exigeant sur ses boss fights.
Exactement, et les boss fights sont pas faciles, et si on regarde pas la stratégie, etc., c'est pas... Enfin, en fait, on n'y arrive pas, et du coup, ça perd vachement d'intérêt. Donc c'est quand même un jeu, quand tu te mets dedans, faut s'y intéresser. Et c'est vrai que là, enfin, je me sens pas, voilà, faire une extension déjà. Bah, de toute façon, je l'avais pas repris pour le faire, mais enchaîner les deux, il faudrait que je prenne, je me dise pendant 2-3 mois, je vais jouer qu'à ça, quoi.
Et tu vois, pourquoi je voulais parler de ça, parce que à mon sens, il y a un gros problème pour Square Enix, c'est que je pense qu'à un moment, il va falloir qu'ils se repenchent sur la campagne de base et ensuite sur Heavensward pour réduire le contenu, en fait. Parce que je pense que... Imagine deux secondes, tu vois, tu te mets à la place du mec qui a jamais joué à FF14 et qui doit se taper le jeu de base.
Ah ouais, mais...
Heavensward et la nouvelle campagne. T'en as pour 200 heures, mec. Good luck.
C'est ça. Et encore, pour l'instant, il y a eu que deux extensions.
Voilà. Et là, je pense quand même qu'il y a moyen de beaucoup, beaucoup réduire le contenu superficiel. Parce qu'il faut quand même dire ce qui est. FF14, c'est quand même beaucoup de quêtes FedEx, beaucoup de quêtes vas-y, va tuer ça, des kill tasks, des machins, qui sont interminables par moment. C'est un des plus gros reproches que je fais au jeu, malgré son scénar qui est absolument... enfin, voilà, qui... Heavensward, c'est une campagne, ça, enfin, il m'a fait chialer, quoi. Donc voilà. Mm-hmm. Mais derrière, il y a des passages où tu dis putain, c'est long, quoi. Et je pense que il y aurait moyen de streamliner, tu vois, enfin de réduire le truc de manière significative, quoi.
Mais je sais que par exemple pour avoir, alors c'était au tout début, c'était, je sais plus quel niveau d'arme, pour en gros avoir la dernière arme du niveau à l'époque, c'était peut-être 90, je sais plus trop. Il fallait récupérer plein de bris d'âme, il fallait faire des plein d'aléas. Donc les aléas, en fait, c'était des, c'est quand tu te balades sur la carte, des fois t'as une espèce de mini boss qui apparaît et il fallait farmer ces trucs là mais c'était interminable parce qu'en plus il y avait du hasard pour avoir du loot. Enfin, ça, c'est le truc qui, moi, m'avait fait chier. Autant faire les, à l'époque, le endgame, c'était l'espèce de tour là où dans laquelle il fallait monter au fur et à mesure, où t'avais plusieurs niveaux. Moi, c'est, je m'étais arrêté là, c'était super intéressant. Parce que justement, t'avais plein de boss différents et suivant les niveaux, fallait des stratégies différentes. Mais par contre, la quête pour récupérer sa dernière arme, j'avais trouvé ça vraiment trop long.
Ou bien sinon, est-ce qu'ils pourraient pas faire comme ils ont fait pour World of Warcraft, justement, genre pour, je crois,
tu
c'était...
Tu commences directement sur l'extension, c'est ça?
Voilà, tu ils te mettent un personnage niveau 90 directement au niveau pour l'extension. Je crois que c'était pour Légion qu'ils ont fait ça. T'as pas besoin de te retaper tout le jeu de base.
Oui,
quoi.
C'est soit ça, soit que tu prennes plus d'XP au départ et que t'es moins à farmer certains niveaux, etc., quoi.
Ouais, par contre, il faudrait qu'ils fassent genre une vidéo résumé des épisodes précédents. Final Fantasy XIV, c'est un jeu qui a gros scénario, quoi, tu vois.
Ah oui, oui, oui.
Du coup, il faut vraiment qu'il y ait un moyen pour les joueurs qui vont commencer directement sur l'extension, tu vois, imaginons, qu'ils puissent se mettre à la page, quoi, parce qu'il y a des trucs qu'ils vont pas comprendre. Alors, pourquoi il y a cette relation-là avec tel perso, pourquoi lui, il trahit, pourquoi machin, enfin, tu vois, il y a des intrigues politiques de partout dans Final Fantasy XIV, donc à un moment donné, il faut que tu comprennes ce qui se passe, quoi. Et j'ai peur que le fait de faire skipper le contenu, tu vois, t'es des joueurs qui arrivent, qui comprennent pas la substantifique moelle du scénar, quoi.
C'est pour ça qu'il vaut mieux faire une progression plus rapide en termes de leveling. Plutôt que de, voilà, d'enlever des quêtes ou ce genre de choses, je pense.
Ouais, enfin, moi, je pense que le mieux, ça serait de faire justement une progression plus rapide en termes de leveling, plutôt que de mettre un niveau 90 directement, parce que si tu mets un niveau 90 directement, le mec, il va arriver sur l'extension. Bon, alors, c'est quoi pour attaquer? Attends, c'est quel toucher? Ah, ah, non, il connaîtra pas les mécaniques du jeu, en fait.
Il va se faire trasher par les autres joueurs, surtout, parce que, voilà, pendant les boss fights.
Le problème, c'est qu'en plus, c'est un MMO. Et il y a plein de gens qui jouent à un MMO, qui lisent pas une quête, faut le savoir, quoi. Les gens dans les MMO, ils cliquent, on leur dit, tu faut que t'ailles là-bas. Une fois qu'ils sont là-bas, ils regardent ce qu'il faut faire, c'est tout. Et ils lisent pas les quêtes. Et c'est vrai que je pense que Final Fantasy se démarque des autres, justement, comme Tyrann l'a dit, par rapport à son histoire. Donc, les gens qui sont encore sur le jeu, c'est parce qu'ils sont intéressés par l'histoire, etc. C'est parce que sinon, enfin, c'est pas pour être méchant, mais ils vont jouer à WoW, sinon les autres, quoi. C'est, moi, j'ai des amis qui jouent à WoW. Ils connaissent pas, il y a pas d'histoire dans le jeu, ils s'en foutent. Eux, ils veulent juste faire le endgame, ils s'en foutent de faire l'histoire avant, etc. Donc ça les dérange pas de commencer plus loin. Mais là, pour un jeu comme FF14, il se démarque à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est un des rares qui subsiste par rapport à WoW, c'est parce qu'il est différent en ce sens-là.
C'est vraiment un Final Fantasy en ligne. T'as un univers de psychopathes, t'as des personnages hauts en couleur. Un scénario qui te tire des larmes, tu vois, où tu t'attaches au perso, où on n'hésite pas à faire crever des persos qui sont importants et tout. Et moi, je vous dis, moi, je suis sorti de Heavensward, putain, mais j'étais pas bien, quoi. Tu finis le jeu de base, tu vois, t'es le héros du jeu vidéo, machin, et puis Heavensward, c'est l'extension qui te dit « Ouais, non, en fait, non. » Et maintenant, tu vas en chier, tu vois. Je voudrais rajouter une chose. Le jour où Final Fantasy XIV s'arrêtera, j'espère que l'équipe du jeu passera sur un jeu solo, parce que ce jeu, il a vraiment tout ce que j'aime dans un Final Fantasy, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, tu retrouves l'ambiance des anciens Final Fantasy, mais avec un design plus moderne, etc. Les persos, je les trouve super classe. Chose qui m'est pas arrivée depuis très longtemps dans un Final Fantasy, je peux dire. La direction artistique, elle est, c'est un truc de malade. Les musiques, pour vous dire, Final Fantasy XIV et Heavensward, c'est le seul jeu, quand je le lance, je regarde systématiquement la cinématique d'intro,
ah,
tellement elle est classe, quoi.
Ouais, ça envoie.
Pour moi, c'est une des meilleures jamais composées dans un Final Fantasy. Voilà.
Et ce que je voulais dire sur Final Fantasy XIV, c'est que je trouve, enfin moi, j'y ai pas joué, mais je trouve le character design particulièrement léché dans cet épisode-là. Et d'ailleurs, je le trouve tellement bon, le character design, c'est que mon avatar, en fait, PlayStation, c'est la classe ninja, en fait. Je trouve la classe tellement stylée, le design du personnage, que j'ai utilisé comme avatar et qui a remplacé mon Batman.
Alors, juste pour précision, le nouveau contenu se concentrera sur la zone désertique. Donc, ça nous changera
des
zones glacées, n'est-ce pas?
Ou glacées, oui.
L'extension sortira à l'été 2017, mais bien évidemment, comme d'habitude, on aura des patchs qui vont sortir au fur et à mesure et qui vont faire la transition de l'histoire vers cette nouvelle extension. Et déjà, rien que ces patchs, je les attends. Pourquoi? Parce que il faut savoir que Heavensward, les patchs qui rajoutaient, tu sais, l'histoire de transition vers l'extension, c'est genre un des moments où tu prends une des plus grosses claques dans le scénar, quoi. Et c'est que des patchs, quoi. Bref, franchement, Square Enix, je dirais jamais assez, mais la gestion de Final Fantasy XIV, bon, ok, mis à part le housing qui là, c'est n'importe quoi, c'est un gros système de merde. mais sinon, tout le reste, tout ce qui concerne le contenu, c'est exemplaire, quoi. Bravo.
Mais en tout cas, t'inquiète pas parce que ton jeu, tu vas en bouffer pendant très longtemps, parce que je rappelle que Final Fantasy XI vient juste de fermer ses portes en 2016, en fait. Et bah déjà, tu vois, en termes de longévité, à part World of Warcraft, on n'a pas vu ça. Là, je pense que pour Final Fantasy XIV, il va être là pour durer. Enfin, le mec qu'ils ont mis en fait à la tête de ce projet-là, il a quand même géré le truc. Le navire, il est en train de couler. Et il est arrivé, il a porté ses couilles, les gars.
À flot, tu vois.
Et voilà, genre le mec, il est là. Et franchement, moi, j'ai pas joué au jeu, mais ce que le mec a pu faire avec ça, parce qu'au début, il y avait plein de gens qui ont été déçus, etc.
Ah bah, ils avaient fait de la merde au début. Faut dire ce qui est. Ils ont complètement foiré le lancement. Hein.
Je pense qu'il doit avoir une pression énorme, tu vois, sur les épaules. Ah, et oui. Il est arrivé et finalement, c'est un des rares MMO à l'heure actuelle, mis à part World of Warcraft, qui arrive à sortir du lot, quoi.
Bon, bah toujours à propos de Final Fantasy, Ben, on a eu des nouvelles de Final Fantasy XV sur PC.
Oui, des nouvelles pour nous dire que bah il y aurait pas de nouvelles avant un moment, en fait, en gros. Et en gros, c'est Tabata, donc qui nous dit clairement que le portage vers le PC va être compliqué et que ça prend plus d'un an. Donc déjà, tu ajoutes à ça au retard, ça veut dire que le jeu, je pense avant 2018, vous en entendrez pas parler sur PC. Hein. Faut pas trop rêver. Hein.
Tabata, je crois qu'il est, c'est le producteur du jeu, c'est ça?
C'est le co-directeur du jeu, exactement.
D'accord.
Ouais. Oui, donc c'est, si lui dit ça, c'est que c'est vrai, je pense. C'est pas.
D'un côté tristesse, mais de l'autre, bon, peut-être soulagement pour ma part, parce qu'en fait, il y a tellement de jeux qui vont sortir là, que je sais pas comment je vais faire.
Ouais, après c'est toujours pareil, c'est toujours un mal pour un bien. Il aurait très bien pu dire, ça va être prêt dans 6 mois, et puis il aurait eu 6 mois de retard, le jeu aurait été mal fini. Des fois, vaut mieux pas s'engager et dire c'est pas pour tout de suite, les gars, laissez-nous bosser dans notre coin, tout le monde est au courant, il y a pas de pression, etc. Plutôt que de dire on va sortir le jeu dans 6 mois, quoi. C'est toujours pareil. Après, faut voir ce qu'ils vont en faire. Vu ce qu'ils font,
faut voir s'ils vont le faire surtout. Parce
oui,
que
je pense que, enfin, ils sont quand même maintenant dans une politique quand même où ils se rapprochent de plus en plus du PC. Tous les jeux FF sont sortis sur PC maintenant, sur Steam notamment. Ouais. Je pense qu'il sortira un jour, mais voilà, ça arrive petit à petit dans les FF d'arriver sur PC. Donc je pense qu'ils ont peut-être pas encore une expertise vraiment au top. Mais voilà, s'ils le font, ils le feront bien. Parce que là, vu comment ils ont repris le dev du FF15, qu'ils ont tout refait, la campagne qu'ils font, enfin, ils essaient vraiment de faire les choses bien, je pense.
Rien que le fait, tu sais, qu'ils aient reporté FF15.
De 2 mois le FF15, ouais.
Alors que toute la campagne marketing a été faite. Honnêtement, à part Square Enix, je connais pas beaucoup d'éditeurs qui auraient fait ça.
Qui auraient permis de le faire, ouais. Non, mais c'est.
Ouais, mais
moi, c'est ce qui me rassure. C'est ce qui fait que.
Ça fait plus de 10 ans, on est plus à un mois près, quoi.
Non, mais ouais, mais il y en a plein qui l'auraient pas fait et qui t'auraient sorti des patchs à la con toutes les semaines après. Là, on sait pas dans quel état le jeu va sortir, mais en tout cas, ce qui en ressort, c'est qu'à chaque fois que des mecs y jouent, ils te disent « Ah oui, on voit l'amélioration ». À chaque nouvelle démo, chaque nouveau test, les mecs te disent « Ah oui, on voit qu'il y a eu du boulot qui est fait ». Voilà, moi, ça me rassure quand même tout ça. Au départ, j'étais vraiment pas rassuré par rapport au jeu, et plus ça va, et plus je le suis.
ce jeu-là, ça fait tellement longtemps que je l'attends. À l'époque, c'était Versus 13 qui avait été annoncé sur PS3. Putain, mais là, je me dis que je vais enfin pouvoir y jouer. Je suis vachement content, ça fait depuis Final Fantasy XII que j'ai pas mis les mains sur FF, donc Final Fantasy XII c'était 2006 quoi, ça fait plus de 10 ans. Maintenant j'ai envie d'y jouer quoi, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais.
Oui, donc moi je pense que je l'aurais pris quoi qu'il arrive, mais j'étais pas rassuré au départ, franchement quand on avait vu les premiers trucs et tout.
Ouais, moi aussi au début, quand le jeu déjà il avait été annoncé sur PS4, Final Fantasy XV qui change de nom, ça avait l'air bof, etc. Mais là tu vois qu'ils essaient vraiment de fournir en fait entre guillemets la meilleure expérience qu'on puisse avoir. Ils ont pas peur en fait de retarder la sortie du jeu. Pour c'est corriger certains défauts qu'ils ont constatés. Ils ont même fait des bêtas, des alphas. Enfin, il y a eu plein de versions qui ont été faites pour que les joueurs puissent leur donner des retours. Et je pense vraiment que là, les mecs sont sur le bon chemin. Donc, j'espère vraiment que ce Final Fantasy XV aura réussi parce que ça fait très très longtemps que je l'attends. Mais j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, même s'il est raté, enfin, au moins j'aurais pu y jouer et donner mon avis là-dessus. Mais après, je veux dire, voilà, s'il est raté, de toute façon, c'est pas grave, il y a Persona 5 derrière. Et s'il est bon, bah tant mieux. Et j'ai pas de doute qu'il va arriver tôt ou tard sur PC. Ils ont fait la trilogie du 13 sur le PC. Ils sont quasiment tous sortis sur PC.
Oui, à part, je sais pas s'ils finiront par tous y être. Oui.
Le 10 est sorti sur PC.
Ouais, le 10 est sorti sur PC. Ouais.
Ouais. Donc il doit être quasiment tous y être. Donc oui. Je verrais pas pourquoi ils mettraient pas celui-là sur PC non plus.
Oui, je pense aussi. Ouais.
Bah c'est surtout qu'à mon avis, le jeu il leur a coûté tellement cher qu'ils vont être obligés. Quoi. C'est ça le truc.
Ouais, et puis même hein, si le jeu leur avait coûté rien du tout, tu sais, ils sont jamais avares de fric hein, s'ils peuvent se faire du fric, ils te le sortiront quoi. Si le jeu pouvait tonner sur téléphone mobile, ils te le sortiraient aussi là-dessus quoi. Ah non, mais ça c'est clair et net que plus il y a de versions du jeu, plus ça va apporter quoi. Les grosses exclusivités, c'est fini à part par les studios first party, il faut être clair là-dessus quoi. À part par exemple, on en parlait tout à l'heure pour Titanfall, le premier qui était sorti sur PC et Xbox One. Qui lui était une exclu Microsoft qui avait payé pour avoir cette exclusivité auprès d'Electronic Arts.
Ils l'ont regretté à mon avis après. Hein.
C'est possible, oui.
Vu le succès du jeu.
C'est pour ça que là, le fait qu'il y ait une campagne solo qui est pour, enfin, là on déborde un peu. Le fait qu'il y ait une campagne solo pour Titanfall 2 et qui le jeu soit aussi sur PS4, qui est quand même la machine qui se vend bien en ce moment, plus la Xbox One, plus le PC, ça va faire déjà plus de joueurs. Surtout qu'ils sortent à la fin de l'année. Il y a Call of Duty qui est le mastodonte depuis 10 ans. Il y a Battlefield 1 qui arrive en termes de challenger, et peut-être que finalement, Titanfall 2, l'outsider, c'est lui qui va peut-être se sortir du lot. Même si c'est pas le succès commercial qui dépasse les deux autres, au moins, il aura le succès critique et le succès des joueurs qui vont dire que le jeu est bien. Et sinon, pour revenir à Final Fantasy, je suis vraiment impatient de mettre les doigts là-dessus, quoi. Le 29 novembre, il m'a jamais paru aussi long, quoi.
Ok. Bon, on va parler d'un autre jeu qui est attendu, pour le coup. Mais qui est attendu au tournant aussi. Ce jeu, c'est l'Arlésienne Star Citizen, n'est-ce pas? Alors, pour être précis, récemment, il y a eu une convention qui a été organisée. Cette convention, c'est un peu comme la BlizzCon, etc. Enfin, c'est une convention qui vont chaque année pour parler de Star Citizen, hein, tout simplement. Et normalement, à cette convention, ils devaient montrer deux choses. Ils devaient montrer la génération procédurale des planètes, premier point. Et second point, il devait montrer la campagne solo. Hein, parce que, bon, personnellement, Star Citizen, s'il sort un jour, c'est bien, mais en fait, je m'en fous un peu, moi, en fait. C'est-à-dire que, à la base, si je l'ai financé, le père Roberts, c'est pour avoir un Wing Commander, quoi, si tu veux. En tout cas, pour avoir un jeu solo qui déboîte. Donc, durant cette convention, on a eu droit, finalement, à une vidéo. Squadron 42 ayant été complètement squeezé. Et ayant été reporté à l'année prochaine, n'est-ce pas? Et par contre, on a eu une jolie vidéo, hein, c'est-à-dire que la génération procédurale, tout ça, ça a l'air chouette. Alors par contre, il y a beaucoup de glitch, hein.
Ouais.
Mais je sais pas pour vous, mais techniquement, autant j'ai trouvé ça impressionnant, autant par contre, tu sais, t'as l'effet No Man's Sky, c'est-à-dire que, ok, bon, ça, c'est clairement scripté, tu dis, bon, sur le papier, comme ça, ça a l'air bien, mais dans le vrai jeu final, à quoi ça ressemblera, quoi?
Ouais, bah, enfin, on en parle assez souvent, parce que moi aussi, je l'ai financé, et moi, je l'ai financé.
Ah, tu l'as financé, toi?
Ouais, je l'avais financé.
Ah, désolé.
Moi, j'avais financé pas que pour le solo, pour le coup, donc ça va. En fait, l'univers me plaisait, les promesses plaisaient, bref. Aujourd'hui, de toute façon, ça fait un moment que je l'attends plus vraiment. Donc c'est vrai qu'après, à chaque fois qu'il y a une vidéo, chaque semaine ils communiquent sur le jeu, il y a un gros suivi quand même. Chaque semaine, je sais pas si toi, mais moi je reçois un mail avec les choses qui se passent, etc. Enfin, y a...
Ça par contre, faut reconnaître en termes de suivi, mais le truc c'est que moi ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque fois, tu sais, t'as des reports. Et au bout d'un moment, alors certes, ils ont beaucoup de pognon, hein, ils ont plus de 100 millions de dollars, je crois, ils sont à 140
millions. Oui, c'est énorme.
Bref, ils ont beaucoup de pognon. Mais le truc, c'est que, alors déjà, ce qui me dérange, c'est qu'on en est à un stade où il y a des gens qui ont quand même investi un SMIC dans le jeu, tu vois.
Ouais, non, mais vraiment, ça, c'est les gens sont fous.
Ouais, même plus, hein.
Ouais, ouais, même plus.
Quand je vois des vaisseaux à 6000 euros, je vois, ça fait déjà 6 SMIC.
Et en fait, si tu veux, j'ai l'impression que c'est un jeu qui compte un peu sur des baleines. Enfin, baleine, je rappelle, c'est le nom qui est utilisé dans le jeu mobile pour qualifier les gens qui... n'arrive plus à s'arrêter, qui paye, qui paye. Et je trouve ça assez malsain, en fait. Et ensuite, moi, ce qui me fait peur, c'est que si ce jeu-là se plante, mais le financement participatif derrière, c'est fini, quoi. Ouais. C'est fini, terminé, c'est le big one, c'est explosion nucléaire, quoi.
Ouais, mais en fait, j'ai l'impression avec ce jeu-là, les développeurs, ils essayent un peu de faire le jeu ultime, quoi.
Ah, oui, c'est ça.
C'est totalement ça.
Procédural, univers, scénario, campagne solo, multijoueur, FPS, combats spatiaux. Pour tous les amateurs de SF, sur le papier, ça fait rêver, quoi, ce qu'ils proposent. Et après, je sais pas si, déjà avec 100 millions, ils vont réussir à arriver au bout de leurs ambitions, parce que... Et tout ça, quand même, ça coûte très cher.
Bah, surtout qu'en plus, ils développent deux jeux en parallèle, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que la campagne solo, entre guillemets, c'est pas vraiment une campagne solo, c'est un jeu solo, en fait. Ouais. Sachant que ces deux jeux, en fait, ils partagent certains éléments, des vaisseaux, etc., tu vois. Tout ça, en fait, ça complique considérablement le développement. Surtout qu'apparemment, moi, j'ai lu, par exemple, l'article de Kotaku récemment, enfin, qui a suivi le projet pendant un an. Ça fait peur, quoi, parce que apparemment le père Roberts, c'est un peu Peter Molyneux, quoi. Tu vois, il voit un truc, ça a l'air cool, et il va dire ah ok, maintenant on va faire ça, quoi.
C'est-à-dire qu'ils ont tellement trop de grosses ambitions que bah tu peux pas tout faire, quoi. Ça aurait été une entreprise comme Ubisoft avec plus de 1000 employés qui travaillent par exemple sur un Assassin's Creed, ça aurait été compliqué de faire un jeu avec ces ambitions-là. Donc
Et ça, en plus, tu vois, on le voit très bien parce qu'ils ont fait un making of là très récemment, une vidéo qui s'appelle Road to CitizenCon. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'émission. Et cette vidéo, tu vois bien qu'à un moment, ils sont emmerdés, en fait, parce que ils se rendent bien compte qu'ils ont deux démos à sortir pour la CitizenCon, et qu'à un moment, il va falloir qu'ils fassent un choix, en fait. et ça résume, en fait, totalement le développement du jeu pour moi. C'est-à-dire que, déjà, développer le jeu multi qu'ils veulent développer, c'est suffisamment compliqué comme ça, en fait. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est un truc de malade, hein. Je veux dire, ils sont quand même en train d'essayer de développer le jeu multijoueur ultime, où tu vas pouvoir te poser sur des planètes, où tu vas pouvoir faire un abordage sur des vaisseaux ennemis. Enfin bref, c'est un truc de psychopathe ce qu'ils sont en train d'essayer de développer. Et en plus, à côté de ça, on te dit, ouais, on va faire un super jeu solo. Ok, d'accord. Et tout ça en même temps, en plus, hein. C'est pas genre, truc à la fois, hein. C'est on va faire tout ça en même temps avec un moteur qui en plus à la base est pas fait pour ça, parce que je rappelle qu'ils utilisent le CryEngine et que le CryEngine il a été fait pour faire des FPS, pas autre chose. En fait, ce projet, j'ai l'impression que s'il est encore à flot aujourd'hui, c'est grâce à une excellente communication et à un gros coup de bol. Gros coup de bol parce que sur la partie technique, ils ont réussi, si tu veux, à recruter des gens qui savent ce qu'ils font, quoi, parce qu'il se trouve qu'il y a eu des problèmes chez Crytek. Qu'ils ont viré tout un tas de monde et que ce monde, bah, ils l'ont récupéré, du coup, pour qu'ils refassent carrément le moteur, en fait. Et sur la partie commerciale, on va dire, par contre, il faut leur reconnaître une chose, c'est qu'ils vendent du rêve. Ça, c'est du No Man's Sky puissance 10 milliards, quoi.
Ah oui, No Man's Sky, c'est des petits joueurs à côté.
En fait, si tu veux, Star Citizen, je suis assez déchiré, en fait. C'est-à-dire que j'ai envie qu'ils réussissent.
Bah ouais.
Parce que la promesse est tellement belle. Mais d'un côté, il y a le côté raisonnable en moi qui me dit « Mais jamais ils vont y arriver, c'est pas possible, quoi. » Quand tu vois leur démo technologique, là, ok, sur une démo, ça rend bien, tu vois. On te fait une démo en mode mission linéaire et tout, mais en vrai, ça sera pas comme ça.
Bah, j'ai du mal à y croire. Ouais.
Là, en fait, ils ont fait un truc de jeu solo avec une planète générée procéduralement. C'est pas un truc de multijoueur, ça.
Bah, comme No Man's Sky, quoi. En fait, ils font comme t'as dit, la campagne qu'ils avaient fait marketing qu'il y avait autour de No Man's Sky, quoi. No Man's Sky, sur les trailers, ça donne envie d'y jouer.
Ouais, sauf que, contrairement au trailer de No Man's Sky, il y avait des bugs sur la vidéo.
Et on a déjà vu du multi pour Star Citizen.
Oui. On enchaîne donc sur les HoloLens. Bon, c'est confirmé, hein, les HoloLens, c'est pas pour nous. Hein.
Enfin, à part si vous avez pas mal d'argent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, maintenant, le casque de réalité augmentée donc de Microsoft HoloLens est disponible en Europe. Avant, il était disponible qu'en Amérique du Nord. Et là, donc, il est pas présenté du tout comme un produit grand public, mais plutôt comme un investissement pour les développeurs et les entreprises. Il y a deux kits de développement qui sont en vente. Alors, le premier kit, le développement édition, qui est à $3,300. Enfin, non, euros, excusez-moi. Et le kit commercial, qui est, lui, à 5,500 €.
Il y a un ordinateur dans les lunettes, hein. Juste pour précision, la grosse différence avec un Oculus Rift, par exemple, c'est que tes lunettes, t'as un OS dedans, en fait. Donc, le prix est un peu justifié, quoi.
Bah oui, c'est pour ce prix-là, quand même, tu t'attends à quand même du bon matériel. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas encore demain qu'on verra Monsieur Tout-le-Monde avoir un HoloLens pour faire une partie de Minecraft chez lui, quoi.
Bah, de toute façon, enfin, là, clairement, je pense que c'est pas du tout dans la stratégie de Microsoft pour le moment.
Ouais, c'est clair et net. On avait déjà vu à la base qu'il y avait des possibilités qui avaient l'air vraiment géniales dans la présentation de Microsoft. Mais en termes de jeux vidéo, déjà pour l'instant, il y a rien qui est spécifique ou de jeu ou d'application qui est faite pour du jeu vidéo pur et dur. Moi, je pense vraiment que la bonne utilisation de ce truc d'HoloLens, ça va être pour tout ce qui est dans le domaine de l'architecture, le domaine médical, la conception automobile, créer des plans et avoir vraiment une précision avec un modèle 3D qui te sort de l'écran. Enfin, et en tout cas, Microsoft a dit que peut-être ils vont essayer de faire une version beaucoup plus accessible pour plus tard, mais pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Ils parlent vraiment, en fait, tu vois, genre de tout ce qui peut être appliqué au domaine du monde de l'éducation, par exemple, dans les musées, etc.
Ouais.
Mais c'est sûr que, pour l'instant, n'essayez pas de pouvoir jouer à votre Minecraft là-dessus, quoi.
Ok. Pixel, tu peux te réveiller? Pixel?
Ça va, je suis là.
Donc, on va passer au jeu du moment.
Le jeu du moment du mois de juin.
Oui, le jeu du moment du machin, voilà. Et le jeu du moment, c'est, très cher Pixel, donc Homefront The Revolution.
America is on its knees. Occupied by an enemy force. They've suppressed our lives and taken away our freedom. But we will rise again.
Bon, Pixel, je voulais te demander, poser une question qui me travaille depuis un moment, là. Pourquoi est-ce que tu te fais du mal comme ça, Pixel? Pourquoi?
Mais pourquoi je me ferais pas mal? Pourquoi je me ferais
non, mais après, t'as le droit d'être masochiste, hein, ça nous regarde pas, mais...
Non, mais... comment dire? Par où commencer? Je sais pas. Le jour où je suis allé le chercher, en fait, je savais pas quoi acheter. D'accord? J'étais au supermarché du coin, comme d'habitude, là où j'achète mes jeux, 95% du temps. Et j'avais deux choix. Je crois que je vous l'avais déjà dit. J'avais le choix entre Homefront The Revolution, sur PC, et Doom 4, sur PC aussi. Mais Doom 4, c'est... Et j'ai pris Homefront, même si Homefront il était plus cher de 10 €, parce que Homefront il était à 50 et Doom 4 il était à 40. Mais Doom 4 je l'ai acheté après de toute façon, donc je savais que j'y rejouais. Mais je me suis fait chier à Doom 4, c'est pour ça que j'en fais pas de test.
Ah d'accord, j'aime tu pas t'es fait chier dessus là. Okay.
Ouais, je me suis fait chier dessus.
Ah donc Homefront t'as bien aimé alors, donc si tu t'es fait chier à Doom 4.
Homefront.
T'as dit tu fais pas tu fais pas de test sur Doom parce que tu t'es fait chier, donc Homefront t'as apprécié.
Homefront, j'ai apprécié le multi, qui est la seule bonne idée du jeu, on va dire. Mais on va revenir au début du début, parce que Homefront The Revolution, c'est un reboot de Homefront, qui était sorti il y a quelques années sous la bannière de THQ, qui était un FPS couloir avec un solo en couloir et puis un multi qui paraît-il était intéressant à l'époque. Moi je sais pas, j'ai jamais joué au multi, j'ai fait que le solo.
Le jeu où les Coréens envahissent les États-Unis, n'est-ce pas ?
Voilà, c'est un jeu où les Nord-Coréens envahissent les États-Unis, sauf que on ne donnait jamais l'excuse du pourquoi du comment. On savait pas comment ils y sont arrivés, mais ils y sont arrivés, donc...
Bah quoi, c'est des Coréens, c'est pas des êtres humains, on peut les tuer, c'est bon, voilà.
Voilà, et ce premier Homefront, je l'avais toujours défendu, parce que j'ai toujours trouvé sympa le solo, quoi. Alors le scénario, on peut dire ce qu'on veut, mais au moins il est original. C'est pas l'armée américaine qui va envahir... qui va octroyer la démocratie à un pays non occidental, quoi, tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Homefront, bon, le premier, il a pas super bien marché, mais faut dire aussi que THQ était un peu en fin de vie à cette époque où ils ont sorti le jeu. Je me souviens qu'ils avaient dépensé un fric monumental en promo pour le jeu. D'ailleurs, c'est ce que tous les sites d'information de jeux vidéo avaient dit à l'époque, c'est que ils dépensent des sommes folles pour un jeu qui est moyen. Enfin, eux, ils ont trouvé ça moyen. Moi, j'ai trouvé sympa le jeu.
Ouais, mais justement, la campagne marketing du titre, elle avait fait que le jeu s'était bien vendu. Je me rappelle, genre, il y avait plus de 2 millions de copies qui avaient été vendues.
Ouais, mais même si c'était pas...
Ils se mangeaient des critiques.
Ouais, c'était manger des critiques, mais de toute façon, c'était 2 millions, c'était pas assez. C'était pas assez, THQ en voulait certainement beaucoup plus, et ça a été le début de la fin en fait, ce Homefront pour THQ, et THQ avait démarré le développement de Homefront 2, ils se sont cassés la gueule, ils sont morts, la licence Homefront a été rachetée par Crytek, à l'époque ça marchait bien pour eux, Crytek finit par plus ou moins se casser la gueule, avec un Crysis 3 qui marche pas super super bien, qui leur coûte beaucoup de pognon quand même. Bon, faut savoir que Homefront The Revolution, c'est 4 années de développement, plusieurs éditeurs qui se succèdent, plusieurs équipes de développement, plusieurs reboots. Alors moi, j'ai mené un peu ma petite enquête, mais il n'y a pas grand chose à savoir sur le développement d'Homefront, si ce n'est que le jeu avait commencé sous THQ et que THQ voulait un jeu en couloir, comme le premier. Et quand Crytek a repris la licence, ils ont dit non, on va faire un jeu à la Crysis, au premier Crysis plutôt, c'est-à-dire un jeu en monde ouvert. Mais apparemment, ça a pas super bien fonctionné, ce qui fait que on sent quand on joue au jeu qu'il y a eu plusieurs reboots, plusieurs développeurs, on sent qu'il y a eu des idées qui ont été prises, qui ont été abandonnées, qui ont été laissées là comme ça parce que les mecs pouvaient pas l'enlever ou pouvaient pas l'améliorer, donc ils ont décidé de le laisser tel quel. Il y a des petits bouts de bonnes idées qui restent là, malheureusement, et on peut pas trop les exploiter. Mais il y a deux modes de jeu. Donc, il y a le solo. Les développeurs avaient dit qu'on pourrait y jouer à la campagne principale à 4. C'est pas le cas. Malheureusement, ils ont dû abandonner. C'est pas trop de leur faute, quoi. Ils ont dû faire avec.
Mais tu peux y jouer à 2, au moins?
Non. La campagne, tu y joues tout seul. Le multi, tu peux jouer à 4, mais j'y reviendrai après au multi. C'est pas la suite du premier Homefront, hein. C'est un reboot qui va expliquer cette fois-ci comment l'armée nord-coréenne a envahi les États-Unis. Et là, c'est la seule bonne idée scénaristique du jeu, c'est la façon dont les Nord-Coréens s'y sont pris, en fait, pour envahir les États-Unis. C'est-à-dire que le jeu se passe dans une réalité alternative parce que on le voit dès l'intro du jeu, dès les années 70, c'est la Corée du Nord qui est à la pointe de la technologie.
D'accord.
Voilà, technologie de communication, tout ça. Et au fur et à mesure des décennies, ils deviennent les numéro un dans la technologie militaire. Et donc ils ont créé une société qui s'appelle Apex, qui vend des armes à tous ceux qui peuvent se le payer. Et dans les années 2000, les États-Unis sont embourbés dans plusieurs guerres au Moyen-Orient. Ils ont des grosses dettes, leurs armes leur coûtent trop cher, donc ils font appel à Apex, parce que l'armement nord-coréen, il est le moins cher du marché. Des hélicos, des porte-avions, des avions, tout ça, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont tous un système de shutdown, quoi. Donc l'armée nord-coréenne, elle a qu'à appuyer sur un bouton et tout se désactive. Et c'est exactement ce qui se passe.
Et maintenant, vous allez rembourser.
Et voilà, et maintenant, ils envahissent les États-Unis pour se faire rembourser. Voilà, donc là, c'est la seule bonne idée, on va dire, du scénario, parce que après le scénario, c'est un truc extrêmement classique, parce que déjà, le héros, il est muet. Moi, ça me fait chier les jeux où le personnage est muet, où t'as tous les personnages importants du jeu, ils te parlent à toi, mais ils se rendent pas de compte que t'es muet, quoi. et on peut pas s'identifier au personnage parce que il a pas de voix, on sait pas à quoi il pense, on sait rien en plus du personnage. En fait, on sait rien. Là aussi, on sent que plusieurs reboots ont massacré le scénario, c'est que les PNJ principaux, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où ils viennent, ils ont aucune profondeur psychologique, ils sont juste là pour te donner des quêtes FedEx, et c'est tout.
Après, j'ai envie de te demander, Pixel, est-ce que, tout simplement, le scénar a pas toujours été un prétexte, et que finalement, il voulait se concentrer sur le gameplay, quoi?
Peut-être, je sais pas, c'est peut-être ça, mais le gameplay en lui-même, il est pas exceptionnel non plus. Enfin, là, il y a de bonnes idées aussi, mais encore une fois, un développement chaotique a fait que c'est très répétitif, parce qu'en fait, tu es un nouveau venu dans la résistance, tu dois rencontrer le grand chef, mais manque de peau, tu te fais arrêter par les Nord-Coréens, tu te fais sauver à la dernière seconde par le grand chef, qui malheureusement se prend une balle dans la jambe, donc il peut pas te suivre, donc vous vous séparez, et là, vous commencez dans la première zone de jeu, qui est en fait une zone d'entraînement, qui est un gros couloir, en fait, où on va t'expliquer les bases du gameplay, les bases de la maniabilité du jeu, quoi. Et ensuite, tu vas dans la première vraie zone du jeu, qui est une zone ouverte, où tu peux aller n'importe où, et faire à peu près ce que tu veux, dans les limites de ce que peut te laisser faire le gameplay du jeu, en fait. Les maps sont très grandes, elles sont assez variées, et ce que j'aime bien, en fait, c'est le level design. Là, les développeurs ont vraiment bossé dessus. C'est que t'as un univers un peu post-apocalyptique, très bien rendu, et surtout que tu peux rentrer dans énormément de bâtiments, et surtout que tu peux quasiment toujours contourner tes ennemis, parce que le level design te le permet. Donc ça, c'est très très bien. Et en multi aussi, tu peux le faire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et le but du jeu, en fait, c'est que tu dois délivrer toutes les zones contrôlées par l'ennemi. Il y a plusieurs QG, ou fortins, ou bases, appelle ça comme tu veux, et tu dois les libérer.
Tiens, ça me rappelle Far Cry, ça.
Voilà, c'est à peu près la même chose, mais il y a plusieurs types de bases différentes. L'objectif, il est pas toujours le même, quoi. Mais au final, tu dois libérer la base. Et ensuite, quand tu libères la base, tu libères toute la zone qui est autour, ce qui va te permettre de débloquer, enfin, de voir sur ta carte en fait des objets à récupérer, si t'en as envie, pour récupérer Putain. Plein de.
Je précise, ATH est en train, ATH est en train de rager parce que il déteste les mécaniques Ubisoft.
Ah non mais c'est surtout les des objets collectionnés, quoi. Même là, je joue à Mafia 3, là, tu dois récupérer des posters ou des trucs, des fusibles, je sais pas quoi, des...
Mais putain, t'es pas obligé de le faire.
Casser les couilles avec ça. Ouais, mais ça casse les couilles, quand même, de les mettre. Arrêtez de les foutre, ça sert à rien dans le jeu, putain. Mettez des trucs intéressants, les gars, ou je sais pas. Le problème, c'est qu'ils rajoutent du contenu comme ça pour mettre de la durée de vie, mais c'est nul à chier. Tu vas sur un point A, un point B, après t'appuies sur le bouton carré pour ramasser l'objet. Tu retournes faire ça pendant des heures, mais même pour Witcher 3, j'avais ce problème-là. Ils mettaient des coffres à tous les coins de rue. Il y avait un coffre.
C'est vrai.
C'est-à-dire que au bout d'un moment, bah, tu vois un coffre, t'as plus ce côté waouh, j'ai trouvé un trésor. Non, là, c'est un coffre. Ok. Voilà, je prends l'argent et je me casse. C'est pourri, quoi. Arrêtez de faire des mondes ouverts pour nous faire ça, quoi. Faites un monde ouvert cohérent, etc. Et si tu trouves un truc, au moins que ça soit un truc particulier. Je comprends pas pourquoi ils mettent ça. Enfin, je pète un cap dans les jeux où je vois ce genre de mécanique, quoi. Tellement ça me saoule, et la plupart des développeurs qui font des jeux en monde ouvert, ils le font.
Le problème, si tu veux, c'est que ça éparpille le développement, quoi. C'est-à-dire que le temps que tu passes à implémenter ces merdes, en fait, tu le passes pas à améliorer le jeu, quoi.
Ah oui, si malheureusement, on sent, hein, ça. Voilà, je sais pas à quel moment du développement ils ont choisi de faire ça, de faire un truc à la Far Cry, mais voilà, c'est là, c'est dans le jeu final. Et on doit se le taper. on doit se le taper, on n'est pas obligé, mais.
Ah non,
c'est
mais
là.
Après, on est d'accord, c'est totalement optionnel dans la plupart des jeux, mais ça, ouais. En fait, c'est vrai que ça fait très artificiel, quoi.
Ça fait très artificiel.
Ah oui.
Et,
Mais d'ailleurs, ce que tu trouves, c'est quoi? C'est de l'argent? Est-ce que, au moins,
c'est de l'argent,
c'est
des matières premières que tu peux récupérer ensuite, que tu vas revendre pour avoir plus d'argent pour te payer, parce que j'ai pas expliqué, c'est parce que tu as un arsenal, tu vas pouvoir te payer des armes, des upgrades pour les armes. C'est-à-dire que tu commences avec le fusil d'assaut, et ensuite, tu peux acheter une amélioration pour transformer ton fusil d'assaut en mitrailleuse légère, par exemple, tu vois. Après, tu peux augmenter sa puissance, le nombre de balles dans le chargeur. Mmh. Et il y a plusieurs paliers d'amélioration pour chaque arme. T'as un petit côté loot.
Donc finalement, ces merdes que tu ramasses, ça sert les gameplay. Pour schématiser, si tu le fais pas, ton personnage sera moins puissant.
Ouais,
donc,
tu vas galérer quand même.
Voilà, il t'oblige à le faire si tu veux. Pour moi, c'est pire que Mafia,
après,
quoi.
Ça dépend du réglage des difficultés, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeux... Même si on te met ces trucs-là, en vrai, le jeu est tellement facile que t'en as pas vraiment besoin, quoi. Donc,
même si le jeu est ultra simple, t'as quand même envie d'avoir la meilleure arme du jeu pour défoncer tout le monde. Il y a ce côté puissance, quoi, comme dans les RPG, tu vois, les RPG, ton personnage, au début, il commence, il est au niveau 1, puis quand tu finis le jeu, il est au niveau 90, 97, et il y a ce sentiment de puissance, et là, c'est pareil. Donc, le fait qu'ils te mettent des objets comme ça à collectionner pour améliorer tes armes, etc., bah, pour moi, c'est encore pire que Mafia 3, parce que dans Mafia 3, au moins, tu collectionnes des trucs, c'est des posters, des pochettes d'albums de CD, mais ça sert à rien du tout.
Ouais, mais il y a des, comment dire, il y a pas que des QG, en fait, à récupérer, en fait, pour la résistance, et il y a aussi des caches, une sorte de cache d'armes ou des caches d'objets divers et variés que tu dois aussi récupérer pour le compte de la résistance, et parfois, la porte est fermée. Dès le début du jeu, tu récupères une pince coupante qui te permet de couper, en fait, les chaînes et les cadenas. Par contre, il y a certaines portes qui sont fermées, tu dois les débloquer, en fait, il y a un petit trou, pas loin, généralement dans le mur ou ailleurs, quoi, et tu dis, bon, tu peux pas y entrer, tu peux pas t'accroupir, tu peux pas passer à travers, c'est trop petit pour un être humain normal, et là, tu dois utiliser une bombe IEM sur une voiture télécommandée, la faire passer dans le trou, et la faire exploser sur un dispositif électronique pour pouvoir ouvrir la porte.
Mais derrière, est-ce que t'as genre un niveau, entre guillemets, à parcourir avec la voiture pour arriver jusqu'à la porte, ou c'est la porte, elle est à côté, et boum
Non, malheureusement, la porte, elle est pas très très loin du trou par lequel la voiture entre, malheureusement. Alors il y a ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont fait ça aussi pour les QG ennemis. Il y a certains QG où tu peux pas entrer de force, c'est impossible, t'es obligé d'utiliser la voiture télécommandée, ou par exemple utiliser une bombe carrément IEM pour la lancer par-dessus la grille, et il faut qu'elle retombe pas loin du dispositif pour que la porte s'ouvre, quoi.
D'accord.
Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais il y a des trucs qui sont là, qui sert à rien, comme par exemple l'infiltration, malheureusement. Alors tu peux faire des takedowns en silence, ça sert à rien, autant aller droit au but. Tu peux mettre des silences.
Mais pourquoi ça sert à rien?
Ça sert à rien parce que ça prend du temps, tu dois te mettre accroupi, essayer de pas te faire voir par les ennemis, alors que foncer dans le tas, ça va beaucoup plus vite et c'est plus efficace.
Le plaisir de jouer à l'infiltration, c'est justement pas te faire opérer et
ouais,
de
mais voilà,
les ennemis,
c'est compliqué, c'est parce que l'IA ennemi, dès que l'infiltration, ouais, elle est assez conne, et puis alors tu peux mettre des silencieux sur tes armes. Si tu prends par exemple le fusil sniper, tu mets un silencieux et tu joues de nuit parce qu'il y a un cycle jour-nuit dans le jeu. Si tu joues de nuit et que tu les snipes de loin, les mecs, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, ils arrivent pas à me localiser. Donc ils deviennent complètement fous, ils regardent autour et ils appellent des renforts.
Si tu snipes un mec en pleine tête et que son collègue il passe à côté, il le voit mort, est-ce qu'il va déclencher l'alerte ou bien
il va déclencher l'alerte parce que c'est pas comme dans la plupart des jeux où tu snipes les mecs sont à un mètre de l'autre, tu snipes le mec de gauche et le mec de droite il entend rien. Non, il va quand même entendre.
L'IA, elle est pas si conne que ça.
Elle
en fait.
Est pas si conne, mais elle reste très souvent au milieu de la route pour se faire plomber. Bon,
ouais.
Ils appellent quand même des renforts, ils se mettent à couvert de temps en temps, ils balancent de temps en temps des grenades, c'est pas génial, l'IA est pas génial. Bon, c'est un FPS en monde ouvert quand même, donc avec des zones très grandes. Et t'as un autre truc dans le gameplay qui sert à rien, enfin qui sert à rien au niveau du gameplay, qui sert au niveau du scénario, mais qui sert à rien au niveau du gameplay, c'est que dans la deuxième véritable zone où t'arrives, le jeu t'explique en fait qu'il faut obligatoirement avoir le consentement de la population locale pour avoir une révolution. Il faut faire des actes de sabotage, il y en a partout dans la zone. Donc une fois que t'es arrivé à 100%, tu peux déclencher l'insurrection locale, mais ça sert à rien au niveau du gameplay, si ce n'est que t'auras moins d'ennemis sur la map. Au fur et à mesure que tu as l'assentiment de la population locale, que ton pourcentage augmente, tu vois la ville dans laquelle tu te déplaces, elle devient de plus en plus crade parce que les mecs commencent à se révolter, ils commencent à tout casser.
Mais les mecs qui se révoltent, tu les vois ou c'est des fantômes?
Ah ouais, tu les vois se révolter parce qu'au début, ils ont peur, ils font rien. Tu les vois qui commencent à se rebeller parce qu'il y a aussi des Américains qui collaborent avec l'ennemi et au début il leur arrive rien, puis au fur et à mesure tu vois des PNJ qui commencent à les insulter puis à carrément les frapper. Après
c'est pas mal quoi, quand même en termes, enfin il y a un travail,
c'est bien pour l'immersion.
Bah oui.
c'est bien pour l'immersion mais ça sert pas le gameplay, ça sert à rien.
Bah si, parce que vu qu'il y a moins d'ennemis tout ça sur la map.
Enfin, ouais, ça sert juste ça.
Après, qu'est-ce que tu peux faire comme feature de gameplay avec ça, c'est ça?
Bah pas grand-chose malheureusement quoi. Mais
bah peut-être Pixel a voulu recruter le bap-up pour les envoyer à l'abattoir.
Alors
tu peux
recruter parce que t'as des soldats de la résistance qui sont là. Tu vas juste sur eux, t'appuies sur une touche puis les mecs ils suivent. Mais tu peux pas leur donner d'ordre malheureusement. Eux aussi l'IA elle est pas géniale non plus. Ils servent de diversion pendant que toi tu peux faire vaquer à tes occupations ou essayer de contourner les ennemis, parce que t'as plusieurs types d'ennemis différents. T'as quelques véhicules, t'as un 4x4 blindé qui tient dessus avec une sulfateuse. Tu as une sorte de mini-tank qui doit faire même pas 50 cm de haut, mais qui est très rapide et qui te balance des arcs électriques qui font très très mal. Et tu as le Goliath qui était dans le premier jeu. Et lui, il fait très 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 mal. En fait, c'est un tank qui se contrôle sans humain.
Un Metal Gear, quoi.
Ouais, un peu comme un Metal Gear, quoi. Mais avec des roues.
J'ai quand même une question, parce que c'est quand même un FPS.
Ouais.
En termes de feeling des armes, de retour, tu sais, de feedback du jeu, est-ce que c'est bien foutu ou parce que c'est quand même important, quoi, dans un FPS, d'avoir.
Je trouve que c'est, il fait le job sans plus. C'est correct. Les armes ont quand même de la patate, surtout le fusil à pompe. À bout portant, il fait vraiment très 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 mal. Tu as un tromblon, tu as le lance-flamme, il est pas là pour abattre plusieurs ennemis simultanément. Tu as un lance-grenade enflammé. Enfin, je sais pas comment expliquer autrement. Il te lance trois grenades qui s'enflamment quand elles touchent l'ennemi, quoi. Tu as un lance-roquette qui fait très très mal aussi. Tu peux lancer des cocktails Molotov, des grenades explosives, des grenades IEM, ou alors tu peux utiliser ta voiture télécommandée pour faire une explosion normale, ou IEM, ou enflammée, ce genre de choses. Les armes ont un bon kick, quand même, mais plus le niveau de difficulté augmente, et plus c'est chaud, quand même, d'abattre les ennemis, faut le dire. Surtout en multi.
Quoi, c'est des sacs à PV?
Ouais, plus t'augmentes, plus c'est des sacs à PV, quand même,
ah, ça,
faut
c'est
le dire.
Un peu chiant. Je trouve toujours que c'est la solution de facilité, en fait. C'est, comme on veut pas se faire chier à côté des IA, du coup, on fait des sacs à PV qui sont chiants à buter, quoi.
Et surtout que dans le jeu, enfin, en tout cas, en solo, parce que, au début, dans la première zone, tu peux faire ce que tu veux, tu peux déclencher des alarmes, les mecs vont pas venir trop en renfort. Mais dès que t'es dans la première zone où t'as la ville, où tu dois libérer la population locale, tu peux te déplacer librement, en rengainant tes armes. Par contre, si tu te fais repérer par un garde, ou par une patrouille, ou par une caméra, parce qu'il y a des caméras partout, tu es obligé de te cacher si tu veux être de nouveau tranquille. C'est-à-dire que si tu déclenches l'alerte et que t'attends que les mecs arrivent pour les buter un par un, j'ai essayé une fois, et à un moment donné, il y avait tellement de mecs qui étaient dans un coin, dans une petite pièce, que ça faisait une grosse montagne, et ça a fait bugger le jeu, c'est que je suis passé en dessous de la map. C'était absolument incroyable. Mais c'est le seul bug que j'ai eu vraiment, sans quoi le... Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, pour le scénario, je voulais finir avec ça, c'est que, bon, il y a qu'une fin, mais on pense que, ouais, bon, c'est un jeu, ça se passe aux États-Unis, t'as la révolution, le peuple américain qui va s'armer, que ça va être la super joie, on va buter du Nord-Coréen à l'appel. Ça se passe comme ça, on va dire, pendant les trois premiers quarts du jeu. Puis dans le dernier quart du jeu, tu te rends compte, en fait, que ça se passe pas comme prévu, qu'il y a des retournements de situation qui font plaisir au niveau, histoire. Mais la fin du jeu appelle à une suite. On verra un jour s'il y en a une. Voilà. Sauf quoi, pour le solo, il est correct, sans plus.
En fait, depuis tout à l'heure, ce que tu dis, j'ai pas l'impression que le jeu soit fondamentalement mauvais. En fait, je vois la presse a énormément critiqué.
Non, mais laisse tomber la presse. Non, laisse tomber la presse. Les mecs, c'est des bobos blasés. Laisse tomber. Laisse tomber. Ce jeu, j'ai payé mon jeu, j'ai payé mes 50 euros, je peux dire qu'ils ont été largement remboursés. Le jeu, il a plein de défauts, on est bien d'accord là-dessus, mais il vaut ses 50 euros.
Mais par exemple, tu vois, je vois par exemple, le jeu se tape un 4 sur Gamecube, par exemple.
Et ouais, je suis allé par exemple...
Oui, non, mais oui, d'accord, oui, mais on va dire...
Si on pouvait
Gamecube,
juste discuter des défauts au lieu... parce que là, voilà. Si vous voulez, on fait un débat sur la presse, mais c'est autre chose, quoi.
Dans les points moins, ils mettent énormément de redondance en termes de répétitivité des choses à faire. Conduite de la moto abominable, fusillade,
je trouve pas
molle,
du tout.
Des quartiers entiers de vide ludique, artistiquement Mossad, IA, quelle IA, garantie 100% sans originalité, bug, optimisation bolchevique. Donc, est-ce que pour toi, les points en moins qui sont cités, par exemple, dans cet article-là, t'es d'accord avec ou pas?
Il y a du vrai et du faux. Alors, c'est vrai qu'au début, le jeu était buggé. Moi, je l'ai acheté quasiment quand il est sorti au mois de juin, quoi. Il était jouable, mais il était buggé. Et surtout qu'il n'était pas super bien optimisé. Ça, il faut le dire, c'est la vérité. Mais maintenant, c'est un problème qui est quasiment réglé parce qu'ils ont sorti des patchs qu'on va qualifier presque de salvateurs, parce que, franchement, il y a une map vers la fin du jeu et cette zone-là, elle saccadait, mais tout le temps. Mais tout le temps. Même si je mettais tous les niveaux du jeu au minimum, avec une résolution au minimum en 720p, ça saccadait. Il y avait des stuttering, comme on dit en anglais. Donc il y avait des saccades, mais tout le temps. Et là, après le patch 1.6, je crois, j'ai rejoué le jeu parce que j'ai refait une partie en solo pour tester un peu le patch. Je suis arrivé dans cette zone et ça ne saccade plus. C'est fluide. Donc les mecs ont bossé.
Ouais, mais parce que, d'accord, en fait, parce que peut-être que le test a été dur à l'époque parce que le jeu était buggé, tout ça. Donc ils ont clairement sanctionné ça. Toi, tu as joué en version 1.6.
Voilà.
Mais par contre, tu vois, il parle de fusillade molle. Par exemple, ça, c'est toujours d'actualité ou
pas? Les fusillades molles, en solo, je pourrais dire oui, mais pas en multi. Mais en solo, je pourrais dire oui. Si tu te fais chier, si le jeu te fait chier dès le départ, tu vas trouver ça mou. Donc ça, c'était pour le solo. Là, je vais faire pour le multi, qui est, lui, je trouve vraiment très très bon. C'est un multi à 4, en coopération uniquement. Il faut être au minimum 2 pour lancer la partie. Et il y a 2 autres personnes qui peuvent te rejoindre pendant la partie, en fait.
D'accord.
Mais sans quoi, vous pouvez être 4, et c'est le chef du groupe qui choisit la map, qui choisit la difficulté, et qui choisit, en fait, quand il y a un petit bouton, en fait, sur chaque personnage, tu peux dire, je suis prêt ou je suis pas prêt.
En fait, t'as un système de lobby où tu fais une recherche de partie, voilà. Puis une fois que...
Voilà. D'accord. Selon la map et selon le niveau de difficulté. Donc, c'est assez recherché.
C'est que de la coopération, on est d'accord?
Ce n'est que de la coopération. Contre l'IA. Et là, t'as un vrai côté RPG, entre guillemets, parce que tu gagnes de l'expérience.
D'accord.
T'as 6 niveaux, tu peux pas être niveau 80 comme dans World of Warcraft. Alors ça peut paraître peu, niveau 6, mais je peux vous dire que vous allez mettre pas mal d'heures pour y arriver. Mais vraiment, ça se passe sur les mêmes maps que le mode solo, sauf que ce sont des maps qui ont été un peu rétrécies avec des zones en couloir, un peu comme dans les FPS modernes. Si tu sors de la map, il y a un message qui dit qu'il faut y retourner, sinon tu crèves. Mais c'est pas parce que c'est en couloir que c'est dérangeant. En fait, c'est peut-être mieux que le solo, parce que vu que c'est en couloir, tout est assez bien scripté et ça file plus vite et il y a beaucoup plus d'action.
Bah, le level design est beaucoup plus facile à gérer, en fait.
Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les fusillades qu'on pourrait qualifier d'un peu molles en solo, là, vu que c'est dans un couloir, tout est restreint, elles sont beaucoup plus vives, elles sont beaucoup plus poignantes. Il y a 3 niveaux de difficulté, facile, normal, difficile. Et si vous vous mettez en difficile, il y a plus d'ennemis, ils vous repèrent plus facilement, ils font beaucoup plus mal, ils sont plus durs à buter. Ça se passe sur les mêmes maps que le solo, mais les objectifs sont différents. Les missions sont toutes scénarisées, mais c'est de la scénarisation, on va dire, sommaire. T'as quand même une voix off qui te donne des ordres et tu dois exécuter les ordres. Les parties sont assez courtes, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que tu peux les refaire autant de fois, enfin de plusieurs façons différentes. Mais avec un groupe de 4, de mecs bien stuffés et qui connaissent la map, généralement ça dépasse pas les 10 minutes.
Et est-ce que, genre, il y a des missions où il y a des contraintes, par exemple, genre pas te faire repérer, faire cette mission-là en infiltration?
Non, uniquement, non, il n'y a pas de contraintes, c'est vraiment du bourrinage. T'as plusieurs objectifs différents, mais à chaque fois c'est du bourrinage. Tu gagnes de l'expérience quand tu remplis une mission, tu gagnes de l'argent. Au bout d'un moment, quand tu gagnes assez de points d'expérience, tu gagnes des niveaux. Et quand tu gagnes des niveaux, tu gagnes des points de compétence.
Ok, et ces points de compétences, ils débloquent quoi comme compétences?
Les points de compétences, c'est comme dans Fallout ou comme dans les FPS modernes. En fait, c'est des perks qui donnent des avantages à ton personnage. Tu peux avoir que 20 perks maximum par personnage. Ces 20 perks-là, tu peux les débloquer dans 4 catégories différentes. Tu as la catégorie méninges, muscles, combat et survie. Chaque catégorie est divisée en 4 paliers. Tu commences au palier 1, puis ensuite le 2, le 3 et le 4. Le palier 4 contient un seul perks, qui est le perks ultime pour chaque catégorie. Mais tu peux pas aller le chercher directement. Si tu veux aller au palier 4, il va falloir débloquer les 3 paliers précédents en déboursant un certain nombre de perks. T'es au palier 1, tu dépenses 3 perks, hop, tu débloques le palier 2, puis ensuite le palier 3 et le palier 4. Ça va, vous me comprenez?
Oui.
D'accord.
Mais la question que je me pose, si tu veux, parce que ok, on débloque des perks, etc. Mais bon, c'est quand même un mode coop. Alors ok, c'est bourrin, mais est-ce que c'est un mode coop qui justement t'incite à jouer en coopération? Pour te donner un exemple, avec Ben Mandren et Mamiami, on a énormément joué à Warhammer Vermintide. Et Warhammer Vermintide, par exemple, c'est un jeu, si tu veux, ou dès que tu t'éloignes du groupe,
t'es foutu.
Tu te fais arracher la tête. Par exemple, t'as des ennemis spéciaux, tu vois, qui vont faire des chops sur tes potes. Il y a une unité dans Warhammer Vanitas, c'est le Packmaster, et le gars, il arrive, il a une espèce de perche, il te chope, et il t'éloigne du groupe, en fait, tu vois. Et du coup, il faut que tout le groupe s'avance comme un seul homme vers ce machin pour le buter avant qu'il emmène ton pote dans la mêlée et qu'il en fasse de la charpie, quoi. T'as plein de trucs comme ça, en fait, où dès que tu t'éloignes du groupe, tu te retrouves dans des situations, en fait, d'une extrême tension où tu es systématiquement incité à jouer en groupe, quoi, et à être solidaire de ton groupe. Genre, t'as un pote qui est tombé, il faut que tu le relèves, ce genre de choses. Est-ce que t'as ce genre de mécanique dans ce jeu ou pas?
Ouais, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, t'as trois niveaux de difficulté, et plus le niveau de difficulté est élevé, plus vous avez intérêt à rester ensemble. Mmh. C'est clair. Si vous commencez direct en difficile, et que vous êtes niveau 1, vous allez en chier. Donc c'est pas recommandé au début, il faut au moins faire en niveau normal, en fait, pour essayer d'apprendre la map, essayer d'apprendre, savoir où sont les ennemis, tout ça. Parce que vous commencez avec une arme de merde, hein. Vous êtes niveau 1, vous commencez avec le fusil d'assaut, tous les personnages. Tu peux te créer ta propre classe de perso en choisissant les bons perks. Mmh. C'est-à-dire que si tu veux être un tank, tu choisis tous les perks qui sont liés au tank, où le mec il va avoir plein de PV, qui va résister aux balles ennemies, qui va avoir plusieurs armes, ce genre de choses.
Est-ce que t'as un système de trinité, healer, tank, ou pas du tout?
Ouais, mais c'est toi qui te le crée. Ouais. C'est-à-dire que tu choisis pas ta classe, c'est toi qui choisis ta classe. Tu peux créer une classe à part entière en choisissant les bons perks, ou tu peux faire comme moi, par exemple, j'ai fait un espèce d'hybride où j'ai choisi les perks que je voulais dans chaque catégorie, en fait.
Mais je veux dire, chacun a un rôle et on peut être complémentaire.
On peut être complémentaire. En fait, tous les personnages peuvent healer dans le jeu.
D'accord.
Mais en choisissant les bons perks, tu peux healer plus vite. Ou tu peux être healé plus vite.
Du coup, ça peut être intéressant pour faire des synergies entre les persos, etc., quoi.
Voilà, tu peux aussi avoir encore d'autres avantages avec ton équipement. Les stuff de premier niveau, ils ont des bonus et des malus, mais plus tu avances dans du stuff de première qualité, et plus tu as de chances d'avoir que du bonus. Mais pour débloquer tous les stuff, tu dois acheter des caisses d'équipement ou des caisses d'armes.
Par contre, l'équipement, on est d'accord, t'en trouves pas dans les niveaux.
Non, tu dois les débloquer. Alors tu peux te créer un sniper ou tu peux te créer un gros tank avec une sudfateuse, mais le problème c'est que les caisses de stuff, son contenu est aléatoire.
Ouais, ça c'est pas très... Je pense qu'il aurait mieux valu peut-être un système, tu sais, où t'achètes tes armes et tu achètes les armes que tu veux acheter, quoi. Parce que comme c'est pas un hack and slash, tu vois...
Ouais.
Voilà, mais ça te force aussi à jouer avec toutes les armes et à essayer de trouver une arme qui te plaît, en fait. Mmh. Les développeurs, ils ont peut-être voulu nous imposer ça aussi. Et c'est pareil avec le stuff dont tu t'équipes. Comme en solo, tu peux upgrader les armes. Il y a 5 niveaux d'upgrade. Et au niveau 5, ton arme est vraiment très très puissante. Au final, le truc vraiment super positif de ce Homefront Revolution, c'est vraiment le multi à 4. Mais vraiment, là, vous jouez avec 4 mecs bien stuffés. Vous jouez directement en difficile. Et là, vous allez en chier. Les gunfights sont intenses. Comme ça dure que 10 minutes, c'est quand même des maps qui ont été designées pour rusher. Il y a vraiment des gros coups d'adrénaline. Et les mecs, ils peuvent arriver de partout. C'est vraiment très bon.
Au niveau des ennemis, juste une question. Est-ce que t'as des ennemis spéciaux, entre guillemets, qui se tuent d'une certaine manière, où il y a une réflexion, si tu veux? Ou c'est tous des péons que tu vas éclater, quoi?
Alors, tous les véhicules, il faut les attaquer soit la grenade, soit lance-roquette. Ou alors, il y a un truc de prévu qui est intéressant, c'est que ils ont tous une sorte de point faible. Tous les véhicules, ils ont un point faible qui est à l'arrière.
D'accord.
Si tu balances un coup de fusil sniper à gros calibre sur l'emplacement jeune, en fait, à l'arrière du véhicule, il explose tout de suite.
D'accord.
Ou alors, tu lances une grenade ou un lance-roquette. Et ça marche. Sauf pour le Goliath, où là, il faut quand même au moins 5-6 roquettes pour pouvoir le buter, parce qu'il est vraiment très résistant. Et il fait très très mal aussi. Hein. Il balance une roquette, généralement, si t'es dans la zone d'explosion, tu vas crever, quoi. Non, là, le seul ennemi où il faut faire attention, c'est justement le gros berserker avec sa sulfateuse, où il faut vraiment tirer la tête, c'est son point faible. Ou alors dans le dos, parce qu'il a un backpack où tu peux tirer dans le dos, ça provoque une... Non, ça s'enflamme pas, mais ça provoque un arc électrique, ouais. Et le mec est électrocuté et il crève. C'est deux points faibles, en fait. Sans quoi, les autres ennemis sont tous à peu près identiques. T'as des ennemis plus rapides que d'autres, qui vont corps à corps, avec un fusil à pompe, ou t'as le soldat normal avec son fusil d'assaut, t'as aussi les snipers, et c'est à peu près tout. Après, j'ai parlé des autres ennemis qui étaient des véhicules, quoi. Il y a une dizaine de maps, environ. Alors, je sais que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, je sais qu'ils ont ressorti plusieurs mises à jour depuis, ils ont sorti des DLC, pour le mode solo, va falloir que je m'y remette, en tout cas pas pour le DLC, mais pour voir s'ils ont rajouté des maps, mais il y a une dizaine de maps pour le multi, et comme le mode multi est quand même assez lent, vous arrivez au niveau 6 après pas mal d'heures de jeu, vous avez de quoi faire. Alors j'ai dit tout à l'heure que le jeu valait ses 50€ à sa sortie, pour moi. Je le conseille ce jeu, à ceux qui nous écoutent, ceux qui voudraient se le faire sur PC, je dirais plutôt attendez de l'avoir sur Steam peut-être à une 30€, voire moins. Et pour ceux qui veulent y jouer sur console, peut-être essayer de l'acheter d'occasion à peut-être 25-30€. C'est un bon investissement, en tout cas pour le multi. Il faut vous sortir de la tête des tests du mois de juin qui ont été faits avec une version, c'est vrai, qui était buggée et pas optimisée du tout. C'est un jeu qui vaut le coup, qui mérite une seconde chance. Au début du générique de fin, t'as un message de l'équipe de développement qui raconte un peu le développement chaotique que le jeu a subi. Et que, voilà, plusieurs développeurs, plusieurs reboots, plusieurs éditeurs, tout ça, et 4 ans de développement chaotique. Voilà, on a un jeu qui va dans tous les sens, qui a des cadavres de bonnes idées qui sont laissés comme ça dans le jeu. Mais il mérite une seconde chance. C'est tout ce que j'ai à dire. Essayez-le gratuitement si vous pouvez, ou sinon, ben, mettez quand même un peu d'argent et essayez-le. Il mérite une seconde chance, ce jeu. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais.
Ok. Bon, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine.
Ouais.
Eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pour parler de Mafia 3, on verra. Ah, ça a l'air prometteur, hein. Je veux pas vous teaser les gens, mais ça a l'air aussi savoureux que l'après-midi qu'on a fait la semaine dernière. Allez, ciao les gens. Bye.
Salut.
Salut.
Salut. Ciao.